Cette première heure sera consacrée pour sa première partie à la fête de la science. Et donc, une fête qui va se dérouler en octobre. Et pour en parler, eh bien, j'ai invité une responsable de la communication et de la mise en phase, un petit peu de tout ça, de la mise en pratique aussi selon les sites dont on va parler tout à l'heure. Elle s'appelle Séverine Avelin. Elle est ambassadrice de la Fête de la Science en Hauts-de-France pour cette édition 2020. Bonjour Séverine.
Bonjour à tous.
Donc, vous avez cette lourde mission d'animer, dans une période un peu complexe, on peut dire, à cause du Covid, des événements qui vont se tenir à des endroits, voire même qui vont être changés d'endroit selon les besoins en fonction de l'actualité. C'est un peu ça ?
Alors, c'est une fête de la science qui est... donc, ça se fait tous les ans au mois d'octobre. Et pour nous, c'est important de maintenir cet événement. Donc on propose, on est de nombreux acteurs sur le territoire des Hauts-de-France à proposer des événements très variés pour tous les publics. Alors c'est vrai qu'on s'adapte un petit peu cette année, on va essayer de maintenir au maximum l'ensemble des choses qui sont annoncées, tout en respectant bien sûr les règles sanitaires en vigueur.
Voilà, donc la période qui est prévue pour toutes ces animations autour de la science ?
Alors ça va du 2 au 12 octobre en fait.
D'accord.
Donc ça démarre vraiment dès le 2, dans différents sites des Hauts-de-France.
D'accord. Donc parmi les opérateurs, on va dire, les personnes et les structures qui vont s'ouvrir et au public, donc on a des grands noms, hein, on peut peut-être les citer.
Alors en fait, il y a vraiment la caractéristique des fêtes de la science, c'est qu'on a une multiplicité d'acteurs, que ce soit au niveau des acteurs de la recherche, mais aussi au niveau des médiathèques, des associations, des grands lieux de culture scientifique qui vont s'ouvrir. Bon, je pense que ça peut être aussi des choses qu'on connaît peut-être un peu moins. J'ai découvert le musée des Bateliers, par exemple, dans la Somme, avec à cette occasion. Il y a le Plus à Dunkerque aussi qui va ouvrir ses portes. Et puis on a aussi des collèges ou des lycées qui ont des infrastructures scolaires qui proposent des actions. Donc c'est vraiment très varié au niveau des personnes qui proposent.
Alors au niveau des intervenants, il y a des gens, des scientifiques qui vont s'exprimer ?
Alors la plupart du temps, on essaye d'être présent, même si les scientifiques sont beaucoup dans les labos et pour ceux qui donnent des cours très pris aussi avec cette rentrée particulière. Mais dans beaucoup de lieux, il y a des scientifiques, des ingénieurs. Alors, toutes les professions des laboratoires sont représentées. Je tiens à insister sur ça. En fait, on a évidemment les chercheurs, les enseignants-chercheurs, des ingénieurs et des techniciens des laboratoires qui vont au contact du public. Alors, parfois dans leur laboratoire, parfois dans les écoles ou sur des lieux de culture scientifique de la région.
Alors, j'ai regardé un petit peu sur votre page web. On a beaucoup de lieux qui sont à public très restreint. Donc, sur inscription, ce n'est pas toujours évident d'y accéder, bien sûr.
Alors, il y a effectivement cette année, surtout, beaucoup de choses qui sont faites sur inscription. Par contre, on a aussi essayé d'ouvrir. Alors, il y a des chasses au trésor, des escape games qui se font dehors, qui vont être maintenues. Et puis, on a essayé d'ouvrir aussi au numérique cette année, de proposer la possibilité de suivre à distance des actions qui sont organisées en direct avec des possibilités d'échange. Et ce qu'on a essayé de mettre en place aussi dans plusieurs lieux, c'est la possibilité de prolonger au-delà de cette fête de la science les échanges dans l'année, avec par exemple, si je pense à des lives qui vont avoir lieu le midi, qui vont proposer un défi tous les jours au collège et au lycée, et dans l'idée que les élèves travaille sur ces défis dans l'année pour qu'on se retrouve ultérieurement aussi autour de ces résultats.
Donc vous êtes plusieurs ambassadeurs de cette Fête de la Science édition 2020.
Alors, cette année, je suis seule ambassadrice, mais je parle au nom de tous les acteurs, les acteurs de la région.
Voilà. Et donc, on peut dire qu'autour, on va dire, de l'île, voire un peu plus large, qu'est-ce qu'on peut encore voir, faire, où est-ce qu'on peut s'inscrire ?
Alors, à Lille, il y a des acteurs au CHU, par exemple, qui vont organiser des choses. Pasteur, on a l'Université Lille, le CNRS et l'ICIT. Qui se sont rassemblés pour proposer justement un village qu'on transporte dans les établissements scolaires, donc du 2 au 12, avec la possibilité... Donc là, ces chercheurs vont aller dans les établissements, parce que c'était plus compliqué de faire sortir les élèves. Et le midi, en live, en fait, à 12h15, on aura un live avec un atelier avec les chercheurs en direct. Tous les midis à 12h15.
À partir du 2.
Alors du 2, sauf le week-end, du vendredi 2 et toute la semaine qui suit. Voilà, jusqu'au vendredi qui suit.
Donc,
en fait,
ce live, on pourra le voir sur support.
On pourra le regarder sur la chaîne YouTube Science & Co.
Ah oui.
Et puis après, ça sera repris sur la chaîne de Lille, CNRS.
Très bien. Donc, on aura après les archives qu'on pourra consulter, c'est
ça ? Les vidéos seront disponibles.
Les vidéos. D'accord. Donc en fait, on pourra, ça va entrer dans une base documentaire d'informations sur les sciences en région, notamment.
Avec l'idée que ça puisse être utilisé justement sur la durée.
Très bien. On peut même imaginer que par la suite, des conseillers d'orientation s'appuient là-dessus pour savoir ce qui se passe dans tel endroit, tel endroit.
Et puis, d'expérience, ça ouvre aussi la possibilité de bien savoir qui travaille sur quel domaine.
Oui.
Et parfois, les enseignants ou le grand public recontactent après pour avoir des renseignements sur un sujet plus précis.
Donc, Séverine Avelin, cette fête de la science, je pense qu'elle a aussi comme intérêt, comme finalité de créer susciter des vocations pour de chercheurs, au moins.
Alors, ça, c'est un des intérêts. On cherche pas. Voilà, je pense que c'est ouvert à tout curieux, même la personne qui n'envisage pas de faire son métier. Hein, c'est vrai, il suffit d'être curieux, c'est pour tout niveau. Mais on sait qu'il y a aussi cet aspect-là de pouvoir, pour les plus jeunes, montrer que c'est possible, pour que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, de pouvoir faire des études dans ce domaine-là et de pouvoir participer à la recherche à différents niveaux de profession. Il n'y a pas que les chercheurs, on peut aussi participer en étant technicien ou ingénieur, en ayant d'autres formations.
Donc la France, d'un point de vue international, est-ce qu'elle est bien placée en termes de recherche ou est-ce qu'elle a besoin vraiment de recruter des gens qui vont développer ces axes peut-être intéressants point de vue scientifique, mais peut-être aussi économique. On voit actuellement certaines carences qui se manifestent en période de crise, où on manque de recherche dans certains milieux, dans certains endroits. Peut-être que là, on va recentrer pour développer des nouveaux secteurs d'activité.
Alors là, c'est vrai que la recherche est assez large. On peut penser recherche appliquée. C'est ce qui vient souvent à l'idée, d'ailleurs, de la population. Et derrière ça, il y a toujours une recherche fondamentale qui là prend du temps et nécessite un temps long, donc des personnes qui restent là longtemps, qui vont pouvoir transmettre leurs connaissances. Et c'est vrai que pour ces aspects-là, il faut des gens qui soient stables dans leur fonction, qui aient le temps de former correctement les étudiants pour transmettre les choses.
Donc quand on dit chercheur, c'est souvent associé à enseignant-chercheur, mais pas forcément.
Alors, dans les laboratoires autour de Lille, en fait, il y a du personnel de l'Université de Lille qui sont, pour la plupart, enseignants-chercheurs ou professeurs, donc qui assurent des cours à l'université. Moi, par exemple, je suis chercheuse au CNRS. Je suis aussi rattachée à un laboratoire, qui est le laboratoire d'océanologie, qui est aussi à Lille. Par contre, je n'ai pas de charge d'enseignement. C'est une autre fonction dans les laboratoires.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire que dans la région Hauts-de-France, on va dire d'une manière globale, est-ce qu'il y a des spécificités en termes de recherche par rapport à d'autres régions de France?
Alors moi, ce qui m'a le plus étonnée, parce que depuis peu, je suis sortie de ma spécialité qui est l'océanographie pour m'occuper de la médiation scientifique sur l'ensemble de laboratoires des Hauts-de-France. Et c'est vrai que ce qui m'a très étonnée, très agréablement surpris aussi, c'est la diversité des sujets de recherche. Que ce soit en médecine, en numérique, dans l'énergie, vraiment, c'est quelque chose qui est dans l'environnement aussi, le suivi de... Et on a des spécificités en région qui sont reconnues à l'international. Donc ça, on a une force sur la région.
Alors là, vous parliez un peu tout à l'heure d'océanographie. J'imagine que c'est un peu votre domaine.
C'est, oui, d'origine.
Donc c'est une spécificité liée aussi à la proximité de la mer, bien sûr.
Voilà, il y a un laboratoire, effectivement, donc le laboratoire d'océanologie et géosciences, qui est situé à Lille, une partie à Dunkerque et une partie à Vimereux, à côté de Boulogne-sur-Mer. Et c'est vrai que c'est une des spécificités, c'est de pouvoir suivre l'état du milieu maritime en Manche et Mer du Nord.
Voilà, donc les sciences, c'est forcément... Il y a beaucoup d'aspects. Hein. On peut parler d'archéologie peut-être aussi, ou on peut mettre ça dans les sciences, ou la climatologie. Enfin, il y a plein de choses possibles. Hein. C'est très large. Il y a beaucoup d'universités dans la région. Hein. Il y a plusieurs pôles, on va dire, universitaires. Hein. Ici, on est sur Lille. Donc, c'est une grosse université, Lille. Mais il y a l'Artois, il y a la Côte d'Opale. Et puis,
l'Ancienne, puis au sud,
Amiens. Donc, on peut dire qu'on est, équipé de beaucoup d'universités. Est-ce que la recherche dans l'ensemble de ces universités-là, sur chacune de ces universités-là, a autant d'importance? Et est-ce qu'il y a des recherches qui se font par des universitaires au-delà des universités, dans des labos qui sont extérieurs?
Alors, les laboratoires extérieurs, c'est assez rare. Mm-hmm. C'est pas le fonctionnement.
D'accord.
Et après, je dirais que quel que soit l'endroit où on se trouve dans la région, un chercheur ou un laboratoire travaille toujours en collaboration avec les spécialistes de son domaine qui sont à l'international. On peut très bien être dans un laboratoire dans une région, mais on va travailler essentiellement avec des gens qui vont être à l'autre bout de la France ou dans un pays différent. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant en recherche, c'est le côté règle du jeu et collaboration avec les spécialistes internationaux.
Est-ce qu'en termes de publication, notre région est identifiée comme productive?
Alors, je n'ai pas les statistiques exactes en tête. je sais qu'on compte beaucoup aussi sur ces notions de publication. C'est un critère qui est ce qui est. Hein. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses à étudier, à regarder au niveau de la spécialité, du développement, du lien avec ce qui va aussi intéresser la société, ce qu'on va pouvoir transmettre comme innovation. Et puis, je pense, pour les universités de la région que vous avez citées, il y a un gros intérêt qui est de former les gens proches de des lieux aussi où ils peuvent vivre et aménager le territoire. Donc, je pense qu'il y a ce rôle-là aussi, au-delà de la recherche, en fait, sur la répartition des universités.
Donc, quand on parle de recherche, souvent, c'est très pointu, hein, une recherche. Pour le grand public, il y a des noms parfois très compliqués. En termes de vulgarisation, c'est pas toujours simple. Est-ce qu'il y a des domaines importants pour le public et pour les citoyens hein, qui seraient bons de mettre sur la table, quitte à avoir des personnes qui fassent la passerelle entre les contenus très complexes et le grand public pour qu'ils soient tenus au courant et bien informés?
Alors c'est assez compliqué de faire un tri dans ce sens-là, comme vous le proposez, parce que dans tous les domaines, en fait, là, justement, j'ai entrepris de faire un petit tour dans tous les laboratoires pour voir ce qui pouvait être valorisé. Et dans chaque laboratoire, il y a un lien, des choses vraiment intéressantes à transmettre au public. Mmh. Après, s'il y a quelque chose qui est universel et qu'il faudrait effectivement peut-être davantage partager, et je pense que là, on a du travail, du boulot à faire, c'est la façon dont on fait notre travail. C'est-à-dire, quel que soit le sujet de recherche, on a une façon de travailler, de choisir un sujet, d'aller chercher les moyens, de se mettre en collaboration avec les autres, et puis surtout après, tout un processus qui permet, une fois qu'on a trouvé un résultat, de le faire valider et accepter par les collègues, donc ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. Et ça, c'est une règle du jeu, c'est un peu comme en sport, au foot, où vous avez des règles du jeu qui sont valables à l'international. On a la même chose en recherche. Et quel que soit le domaine, on fait valider ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la communauté regarde si c'est ce qu'on sait de mieux, si on est le plus sûr de ça. Et à ce moment-là, ça peut être publié dans des journaux qui sont classés selon leur impact de lecture, etc. Et ce processus-là, en fait, je pense qu'il est important aussi de le transmettre. Et c'est vrai qu'à travers les fêtes de la science, c'est quelque chose qu'on peut partager. Dire, voilà, on travaille comme ça, et si on vous donne ce résultat, un résultat en soi, je dirais que ça peut être intéressant, ça peut surprendre. Mais ce qui est important au moment des fêtes de la science, c'est qu'on a aussi le temps d'expliquer, à travers le lien qui se crée, quel chemin on a fait. Et c'est souvent là, je dois dire, qu'en recherche, où c'est le plus excitant, le plus intéressant. Le plaisir d'avoir un résultat au final et de donner le résultat, c'est bien. Mais je trouve qu'à titre personnel, quand on fait la recherche, la démarche, on essaye, on se trompe, on corrige, on échange avec les autres, on va montrer ce qu'on a trouvé. Tout ça, c'est des étapes qui sont vraiment... On peut trouver du plaisir là-dedans. Mmh. Savoir comment on apprend, comment on découvre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment important de le partager, quel que soit le domaine.
Donc, dans ces métiers, hein, autour de la science ou dans la science, il y a aussi les médiateurs scientifiques, ça existe hein?
De plus en plus, oui.
Voilà, donc l'intérêt, c'est aussi de mettre à niveau peut-être une partie de la science pour informer les gens. Donc, quand je dis les gens, ce sont les citoyens, par exemple, mais ça peut être aussi les élus, puisqu'ils vont décider sur des bases. Là, on voit bien en ce moment comment les gens se renvoient la balle entre le politique, les scientifiques, avec le parapluie. C'est une situation un peu inconfortable pour tout le monde et aussi pour le public qui ne s'y retrouve pas toujours.
Je pense qu'il y a, il y a cette prise de conscience-là hein, au niveau des institutions de recherche, des universités. Il faut qu'on se mette plus en lien avec la société. Sortir un peu de notre laboratoire, c'est pas quelque chose d'évident, parce que c'est vrai, quand on est pris dans un sujet de recherche, on est vraiment peut être happé par ce que l'on fait. Ça peut être très pointu, justement. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait à la fois des médiateurs professionnels, qui sont pas forcément qui ont souvent une formation scientifique, mais qui sont pas forcément au jour le jour dans les laboratoires. Et c'est aussi important que les chercheurs se mettent en lien avec ces gens-là pour voilà, faciliter le transfert, les échanges, apprendre l'un de l'autre, parce que voilà, il y a des deux côtés des choses à transmettre.
Donc dans certains lieux, par exemple ici à Lille, il y a une formation qui est journaliste et scientifique, hein, qui est donc de l'Université de Lille, mais en parallèle ou en partenariat avec l'École de journalisme de Lille. Effectivement, ce sont des métiers un peu complexes, hein, pour arriver à synthétiser, pour envoyer ça à un public qui n'est pas forcément formé, etc. Et puis, il y a les journalistes, d'une manière générale, qu'on voit sur les antennes, à longueur de journée, j'allais dire, mais qui sont souvent formés en études littéraires au départ, qui n'ont aucune formation scientifique en général, à part les journalistes scientifiques dont on vient de parler, et finalement, qui sont un peu démunis pour décoder l'actualité qui, dans le domaine scientifique, devient de plus en plus importante, notamment quand on touche à des maladies ou à des progrès scientifiques. Quand je dis progrès, c'est entre guillemets, sur des évolutions qui ne sont pas toujours des progrès et sur lesquelles il faut qu'on informe le public peut-être un peu mieux qu'actuellement. Et vous avez des missions.
Et informer sur l'incertitude, souvent, ce n'est pas simple aussi, parce que c'est quand même un facteur très présent en recherche. Si on cherche, c'est parce qu'on ne sait pas tout. Donc, c'est vrai que c'est ce côté-là aussi de réussir à transmettre ça. Et moi, je base beaucoup sur le lien, en fait. C'est pour ça que ce soit les fêtes de la science ou d'autres événements, des choses qu'on essaye de mettre sur la durée. Parce que pour moi, ça, c'est aussi basé sur le lien de confiance. Casser un peu les a priori qu'on peut avoir. J'avais à titre personnel aussi reçu, on avait fait un échange avec les journalistes, une association de journalistes scientifiques il y a quelques années. Donc, j'étais allée une semaine dans un média et il y a un journaliste qui était venu une semaine au laboratoire. Mmh. Et c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde. Donc ça, je pense que c'est des choses qui pourraient se développer parce que tout le monde, vraiment, c'est vraiment pas une perte de temps, tout le monde y gagne.
Donc, effectivement, se développer peut-être à grande échelle vu l'accélération, on va dire, des évolutions. Et puis aussi des questions qui se posent par rapport à cette évolution. Il y a un problème aussi d'éthique, enfin, on pourrait en parler aussi. Donc voilà, on est dans un monde qui bouge vite. Comment on s'adapte à ça et comment on permet aux gens de décoder ce monde et d'anticiper sur des évolutions et peut-être d'impliquer aussi le citoyen. Il y a du boulot. Voilà, donc on va revenir sur cette fête, on va rappeler les dates.
Donc, c'est du 2 au 12 octobre en France métropolitaine.
Voilà. Et donc, dans la région, on peut s'inscrire encore sur certains...
Oui, je pense qu'il faut, il faut vraiment aller voir sur le site des Fêtes de la Science ou Écosciences.
On tape Écosciences,
c'est ça ? Écosciences, oui, c'est pour le Nord, en fait. Et on a la liste des événements avec les liens pour s'inscrire, les numéros de téléphone, etc. Voilà. Vraiment pas hésiter à appeler.
Donc... on a encore un peu de temps pour nous de se préparer à cet événement. D'ailleurs, on va suivre vos expérimentations, vos expériences et vos actions en étant sur le terrain pour ramener des reportages dans les émissions d'octobre. Donc, mercredi, le premier mercredi d'octobre et le second mercredi d'octobre, on consacrera un temps d'antenne à cette même heure pour présenter un petit peu ce que j'aurais pu observer dans des labos ou dans des lieux où il se passe des choses. Et on en rendra compte avec les personnes que j'aurai interviewées ou qui viendront peut-être ici à l'antenne. Donc voilà, les rendez-vous sont donnés. On rappelle le site web.
Donc c'est soit le site national Fête de la Science et en regardant dans la région, on arrive à ce qui se fait sur l'île aussi. Mmh. Et soit le Écosciences pour la région aussi qui reprend les différentes actions.
Voilà, donc là, on a vu un petit peu le cadre large. On va revenir sur des exemples. Et après, on suivra l'actualité dans l'année. Si vous avez des choses qui sont passionnantes, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci,
merci.
Séverine Avelin.
Alvin.